Bonjour à chacun. Les rangs sont un petit peu clairsemés. On voit que les vacances commencent à s'installer. Mais comme le disait Robert aussi, il y a des visages de visiteurs. Donc nous sommes heureux aussi de pouvoir partager ensemble ce temps dans la communion fraternelle. L'été, c'est la période propice pour le repos. Les vacances, pour ceux qui peuvent en prendre, partir ou pas, mais faire un petit break, comme on dit, ceux qui ont travaillé toute l'année, pour les élèves, hein, qui profitent de 2 mois de repos, repos bien légitime. Et ce matin, je voudrais vous parler de repos, mais je ne vais pas vous parler de celui-là, je vais vous parler d'un autre repos que le repos physique. Et je voudrais lire avec vous un verset que certainement beaucoup connaissent, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. C'est un verset qui a imprégné mon enfance, parce que dans l'église évangélique que je fréquentais avec mes parents, c'est un verset qui était au mur. Donc pendant des semaines, des mois, des années, je voyais ce verset au mur. Et c'est un verset que, comme beaucoup d'autres, mais je crois qu'il y a une importance et qui révèle aussi tout l'amour de Jésus pour nous. Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » On a une invitation ici de Jésus à ceux qui sont fatigués et chargés, peut-être chargé par le péché, chargé par une vie compliquée, chargé par tant de choses. Et on est ici face à un paradoxe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois dans la Bible, il y a certains paradoxes. C'est que Jésus ici nous invite à venir nous décharger et puis nous invite à prendre un joug. Il y a quand même une certaine contradiction apparente. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah. Dans Ésaïe, chapitre 58, verset 6, il nous est dit « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Le prophète Ésaïe ici parle du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, mais est-ce qu'on ne retrouve pas ici l'œuvre de Jésus sur terre, résumée en ces mots « Dénoue les liens de la servitude », n'est-ce pas là ce que Christ est venu faire ? Renvoyer libre les opprimés. Et oui, Jésus est venu rompre toute espèce de joug qui nous rendait esclaves. Le joug du péché, je l'ai dit, le joug de toutes sortes de dépendances, le joug de la domination, peut-être d'une personne, d'une situation qui nous tenait asservis dans l'esclavage, le joug de la religion. Et l'apôtre Paul écrivait aux Galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc je crois qu'il est aisé de comprendre ici que le joug que le Seigneur nous propose de prendre n'est pas un joug d'esclavage ou de servitude, c'est autre chose. Et c'est cela que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin. Pourquoi Jésus nous invite-t-il à porter de nouveau un joug? Et ici, Jésus fait allusion au joug qui était à l'époque et peut-être encore dans certaines campagnes, aujourd'hui fréquemment utilisé pour unir 2 animaux ensemble, généralement des animaux de trait, que ce soit pour le labour, que ce soit pour tracter. Et c'est une pièce de bois qui est fixée sur chacun des animaux et qui les rend totalement solidaires. Et c'est vrai que dans nos campagnes françaises, je ne crois pas qu'on le voit encore beaucoup. Peut-être dans des pays africains où c'est certainement encore utilisé. Et je voudrais qu'on regarde un petit peu ensemble quelles sont les conséquences ou les avantages de ce joug. Et on en verra 4 ce matin, il y en a peut-être d'autres. Mais une des premières conséquences, c'est qu'il n'est pas possible pour l'un de reculer si l'autre continue d'avancer. Ça paraît évident, mais il y a une unité entre les deux, il y a une solidarité. Et si l'un avance, l'autre il est obligé d'avancer avec, il ne peut pas reculer. Ça n'est pas possible non plus de s'éloigner de la trajectoire. Une troisième caractéristique, c'est que le joug impose de se laisser conduire et de dépendre de l'autre. Et puis, c'est aussi une quatrième conséquence que l'on verra, c'est que ben, quand deux animaux sont tenus par un joug, chacun est obligé de faire sa part parce qu'ils sont les deux soumis aux mêmes contraintes et à la même charge. Alors, on va essayer de regarder un peu en détail ces quatre points. Le premier, ce n'est pas possible d'aller en arrière. Et je voudrais qu'on lise ensemble dans Exode au chapitre 16. Exode chapitre 16, on lira les trois premiers versets. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, et puis il se retrouve dans le désert. Et là, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ça faisait un mois et demi qu'ils étaient sortis d'Égypte. Tout le peuple murmurait. Heureusement qu'ils ne savaient pas encore à ce moment-là qu'ils allaient tourner 40 ans, parce que je crois que ça leur aurait mis, pour le coup, vraiment un coup au moral. Je fais juste une parenthèse, ce n'est pas l'objet du message. J'ai été interpellé en lisant ce passage. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre les hommes que Dieu avait choisis pour les faire sortir de l'esclavage. Je crois qu'il faut qu'on sache méditer aussi sur les murmures qu'on peut parfois avoir les uns envers les autres. C'est juste une parenthèse que je referme, ce n'est pas le sujet de ce matin. Et puis dans les Nombres au chapitre 11, on lira au verset 1er au verset 6. Nombres chapitre 11. Verset 1er, le peuple murmura une fois de plus, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. » Et ils étaient encore en train de regarder. Ils avaient déjà oublié qu'ils étaient dans l'esclavage et ils n'avaient gardé que le bon côté des choses. On était nourris gratuitement, ça ne nous coûtait rien. Ça ne nous coûtait rien. Ils étaient déjà regrettés le temps où ils étaient nourris par celui qui les tenait dans l'esclavage. Ils ont oublié la souffrance, les cris, les pleurs, la violence. Et déjà, ils regrettent ce temps-là. Esclaves, mais nourris gratuitement. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Les poissons, les concombres, c'est pas grave. Le reste, la misère, les cris, la souffrance, on oublie. Alors que là, ils étaient libres, nourris miraculeusement par Dieu qui leur donnait la manne tous les jours. Ils étaient juste obligés de faire leur part quotidienne pour ramasser la manne. Et déjà, ils étaient dans le regret, dans l'amertume et dans cette envie de retourner en arrière. Combien de fois dans les épreuves par lesquelles on peut passer, les déserts qu'on traverse, que Dieu permet, ces déserts nous font douter de la fidélité de Dieu parfois et amener cette pensée que tout compte fait, c'était mieux avant. Bah, à quoi ça sert de marcher avec Dieu si tout compte fait, Avant, on était dans la souffrance, mais au moins on avait à manger. Là, on est dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Le joug que Jésus nous propose de partager avec lui nous permet, dans ces moments difficiles, de ne pas faire marche arrière. C'est vrai que ça peut être tentant, les pensées peuvent venir, nous faire miroiter toutes ces choses anciennes qui certainement étaient éphémères, qui avaient même parfois un goût amer. Ces pensées de retourner à notre ancienne vie. Mais le joug que le Seigneur nous propose de prendre, c'est d'avancer avec lui, d'avancer avec lui à nos côtés. La deuxième caractéristique du joug, c'est qu'il n'y a pas possibilité de s'écarter de la trajectoire. L'apôtre Paul écrivait aux Galates, dans le chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et tout au long de l'évangile et des épîtres, il est question de ces gens qui s'infiltrent, des faux docteurs, des faux prophètes, qui sont là pour essayer de nous écarter de la trajectoire, du plan divin. L'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième épître, au chapitre 2, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Et puis Paul écrit à Timothée, au chapitre 4, verset 1er, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Paul écrit encore aux Colossiens, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et voilà, ce sont des choses qui reviennent. Je citerai encore Paul qui écrivait aux Galates, « Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Et là, ces faux frères s'étaient infiltrés pour remettre le joug de la religion, des lois. C'est un contexte dans les Galates où Paul évoque ceux qui étaient pour la circoncision, ceux qui n'étaient pas pour la circoncision. Et il est fait allusion à la loi. Et là, Paul rappelle que Christ nous a appelés pour la liberté, non pas pour nous rendre esclaves de religion, de dogme, de pratique. Et je pense qu'il est important aussi de ne pas confondre le joug de Jésus, marcher dans ses pas, suivre ses pas, marcher avec lui, et le joug de la religion, qui, lui, voudrait nous remettre sous une sorte d'esclavage, par des pratiques, par des choses qui ne sont pas en fait le plan de Dieu et qui finissent par être pesants. Le joug de Dieu, de Jésus, est léger. Veillons à rester attachés à Christ, à sa parole, à ne pas nous en détourner. Et je pense particulièrement, on est dans un monde où la communication va à foison avec la littérature, avec Internet, et il y a de très bonnes choses. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Et je parle dans l'enseignement chrétien. Et vraiment, je mets en garde ce matin avec beaucoup d'amour, mais aussi de gravité. La parole est riche, elle est pleine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller lire des livres à côté. Il y a de très bonnes choses. Et mon propos n'est pas de dire « jetez tous les livres que vous avez, tous les enseignements, ce que vous pouvez écouter ». Non, ce n'est pas mon propos. Mais passez au crible de la parole ce que vous entendez, ce que vous lisez. Est-ce que c'est là pour satisfaire mes convictions personnelles? Est-ce que ça va dans le sens de ce que je pense? Est-ce que c'est conforme à ce que dit la Bible? Parce que ce sont des choses qui, insidieusement dans nos vies, peuvent nous faire écarter de la trajectoire. Et parfois, c'est, vous savez, de droites qui ne sont pas tout à fait parallèles. Hein, au début, c'est très, très resserré. Et puis, plus on avance, et plus l'angle il s'ouvre, et plus on s'écarte. Et par des choses comme ça, par des enseignements qui parfois ne sont pas tout à fait conformes, il y a une partie de vérité, et puis une partie de choses qui est humaine. Et puis, on finit par se nourrir de choses qui ne sont pas forcément en adéquation et en vérité avec la parole de Dieu. Veillons sur ces choses-là. Le joug de Jésus nous permet de rester étroitement lié à lui et de rester sur la même trajectoire. Et puis, je le disais, une troisième caractéristique du joug, c'est de se laisser conduire, de dépendre de l'autre. Ben oui. Notre nature charnelle peut parfois nous amener à nous écarter de Christ. Et c'est souvent un combat parce que ben on sait ce qu'il faut faire pour plaire à Christ bien souvent. Et puis la chair est là, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, comme disait l'apôtre Paul. Et je vais prendre ce passage de Romains chapitre 7 où justement l'apôtre Paul parle de ce combat de la chair. Je vais lire dans la version Parole vivante parce que j'ai trouvé que la traduction qu'il en est faite est vraiment bien révélatrice de cette situation. Romains chapitre 7 au verset 18, Paul dit ceci aux Romains, « Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la volonté qui me manque, c'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose, et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. » Bon, ça doit certainement rappeler des choses à plusieurs d'entre nous. Combien de fois on prend des résolutions? Combien de fois on dit « je ne me laisserai plus prendre » Combien de fois on dit « oui, j'ai la volonté » et puis voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est parfois faible. « Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi, ma volonté, c'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne puis résister à ses sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine, il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Quel déchirement terrible ! Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse ? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts ? Dieu merci, il existe une issue. Amen. Amen.
Amen.
Ah, j'ai eu peur. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Livré à moi-même et à mes propres forces, je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison, mais de l'autre, je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Et puis au début du chapitre 8, il dit ceci, « Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons rien à redouter, aucune sentence contraire. Si nous sommes unis à lui, ce joug qui nous unit, qui nous rend solidaires de Jésus, nous permet de marcher par l'esprit et non pas par la chair. Et c'est ce que Paul écrivait aussi aux Galates pour les encourager, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je voudrais paraphraser un petit peu, « Marchez unis à Christ par son joug et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est vrai que nous sommes dans des corps charnels, jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle à lui, qu'il revienne ou que nous passions par la mort charnelle et la résurrection au moment de sa venue, nous sommes dans un corps charnel. Mais il nous donne la possibilité de marcher selon l'Esprit
et de ne plus accomplir les désirs de la chair. Se laisser conduire, dépendre de l'autre, dépendre totalement de lui. Et puis le quatrième point du joug, c'est que chacun fait sa part, parce qu'on est solidaire, on est lié l'un à l'autre. Alors ici, il n'est pas question de faire sa part pour notre salut. Les choses sont claires, notre salut, il est totalement acquis par Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix, nous n'avons rien à faire. Il l'a dit sur la croix, tout est accompli. Paul écrit aux Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et le salut, on n'a rien à faire que de l'accepter. De reconnaître notre situation de pécheur, éloigné de Dieu, se repentir et accepter le salut de Jésus-Christ. En revanche, dans notre marche avec le Seigneur, une fois qu'on a fait acte de repentance et qu'on souhaite s'engager et marcher avec lui, si nous voulons lui être agréable et marcher à son pas, alors là, oui, nous avons notre part à faire. Ce serait mentir, vous abuser, que de dire « ça y est, je me suis converti, Dieu a visité ma vie, il a changé ma vie, ok, super, c'est bien, j'attends, tout se passe, le Seigneur gère tout ». Non, le Seigneur ne gère pas tout. On a notre part à faire pour continuer à avancer, pour marcher à son pas, pour être toujours plus près de lui. Et souvent, nous demandons dans nos prières, « Seigneur, donne-moi, Seigneur, revais-moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi ». Et on en parlait il y a quelques jours avec des frères et sœurs. Moi, je suis plus je lis la parole et plus je suis interpellé par le nombre de passages où la parole de Dieu utilise l'impératif. Demeurez donc ferme. Éloigne-toi. Détourne-toi. Marchez selon l'esprit. Revêtez-vous. Recherchez. Ne vous conformez pas. Soumettez-vous. Rejetez. Et la liste est longue. Quand on lit les lettres de Paul, quand on lit les épîtres, même les évangiles, l'impératif, on a notre part à faire. Et comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est important. C'est pas une option que le Seigneur nous donne. Si, il nous laisse le choix, ça c'est sûr. Mais si on veut marcher avec lui, si on veut se soumettre à sa volonté, si on veut avancer à son pas, alors oui, il y a des impératifs, il y a des choses à acter dans nos vies, à accepter. Et dans notre verset d'introduction, cet impératif il est utilisé plusieurs fois. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il appelle. Il ne va pas s'imposer à personne. Parfois, certains sont fatigués, sont chargés, et puis ils continuent à porter leur sac à dos, et puis plus ils avancent, plus ils en mettent dans le sac à dos, puis ils croulent. Plutôt que d'abandonner, de dire « oui, j'accepte de venir, j'accepte de capituler, j'accepte de céder ma vie à Christ. » Prenez mon joug. Il ne l'impose pas son joug. Il ne l'impose à personne. Il dit juste qui veut marcher avec moi, qui veut marcher à mes côtés, qui veut s'unir à moi. Alors, moi, je t'invite à prendre mon joug. Et on va faire la route ensemble. On va s'unir ensemble. On va être solidaires l'un de l'autre. Recevez mes instructions. Dieu fait sa part en s'approchant de nous, mais je le disais, ne force personne. Il ne force personne. Et la marche avec Dieu n'est pas une question de capacité. Bien souvent, on se sent complètement incapable. Je le disais dans ce texte où Paul fait allusion à la chair, et c'est dans nos vies un combat que la chair, que de ne pas marcher selon nos convoitises, selon des pensées qui peuvent venir, qui sont les pensées humaines. Et parfois, on se sent complètement incapable et de dire « mais comment vais-je y arriver ?» Et ce n'est pas un problème. A-t-on la volonté ? La marche avec Dieu, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Prenez mon joug. Est-ce que j'ai envie de prendre le joug du Seigneur ou pas ? Est-ce que j'ai envie qu'il me donne, lui, sa capacité de marcher à ses côtés ? Un joug peut devenir blessant quand il n'y a pas la volonté de se soumettre. Imaginez que l'un veuille aller à droite et l'autre veuille aller à gauche. À un moment, ce qui va Faire le lien entre les deux, ben, c'est le joug. Et forcément, il va s'exercer une pression de plus en plus importante. Alors, soit je me dégage du joug parce que je veux prendre ma direction, soit je n'ai pas compris que ce n'est pas la bonne direction et je continue à forcer alors que le Seigneur veut m'amener ailleurs. Et là, le joug, il commence à faire mal. Ben oui, parce qu'il s'exerce une contrainte. Et parfois, certains enfants de Dieu ont bien compris à la conversion l'importance de se revêtir du joug de Christ. Il y a une transformation de vie, il y a un changement radical de vie, les choses, la vie ancienne, on l'a laissée et on est prêt à dire « Oui, moi Seigneur, je veux marcher avec toi ». Alors, on revêt le joug de Christ, mais ils ont oublié qu'ils veulent continuer à mener leur vie en électron libre. Et là, effectivement, ça devient bien souvent un chemin de souffrance, de tristesse, parce que ce joug n'est pas du repos. Ce joug devient comme une contrainte, comme un esclavage, comme quelque chose qui fait mal. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je vous disais tout à l'heure en introduction que ce verset, je l'ai lu et relu sur ce mur de salle évangélique quand j'étais enfant. Et je n'ai jamais fait cette association « prenez mon joug et recevez mes instructions ». Il y a deux choses. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et bien souvent, on accepte de prendre le joug, et puis les instructions, ben, c'est un petit peu plus difficile. Parce que là encore, c'est pas « je vais vous donner mes instructions », bien sûr qu'il les donne, mais ce que dit la parole, c'est « recevez-les », c'est pas le tout de les entendre. Il faut les recevoir, il faut les mettre en pratique. Et si je revais le joug, mais que je ne reçois pas les instructions, alors oui, ça va être un chemin de souffrance, un chemin d'incompréhension, et je ne comprends pas, parce que je dis, mais je ne comprends pas, je marche avec le Seigneur, j'ai la volonté d'avancer, mais c'est de la tristesse, c'est de la contrainte, je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas dans le repos. Et là, le Seigneur nous promet le repos de l'âme, il nous promet quelque chose d'apaisant. Son joug est doux et reposant. Alors, prendre le joug du Seigneur et recevoir ses instructions, oui, c'est accepter de se laisser conduire totalement dans notre destinée. C'est accepter de rester uni à lui. C'est accepter de marcher dans la soumission à sa parole. Et ça m'a fait penser à cette parole de l'apôtre Pierre, de la pêche miraculeuse. Ils avaient pêché toute la nuit. C'était un professionnel. Et puis sur le matin, le Seigneur vient. Et puis il dit, là, une fois de plus, l'impératif. Il dit, tiens, tu ne voudrais pas essayer de jeter ton filet pour voir là peut-être que ça va. Non. Le Seigneur, il vient et dit, jette ton filet. Encore un impératif. Et l'apôtre Pierre dit, ben, on a pêché toute la nuit. Ouais, je ne comprends pas là, je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Je ne comprends pas. Il ne doit pas y connaître grand-chose à la pêche. Les meilleurs moments, c'est la nuit, on a pêché, ben, ça n'a pas marché. On va nettoyer les filets, on va tout ranger, puis on verra la nuit prochaine. Et non, l'apôtre Pierre, il accepte de ne pas comprendre et de suivre l'instruction. Et il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et recevoir les instructions, c'est aussi de dire, ben écoute Seigneur, non, je comprends pas, c'est humainement, là ce que tu me demandes, ça tient pas la route quoi. Mais j'accepte, parce que c'est ta parole. Alors oui, sur ta parole, je le ferai. Et c'est un pas de foi. C'est un pas de foi parce que c'est accepter à ce moment-là d'être complètement soumis à sa volonté, complètement uni à lui et à dépendre de lui. Parce que humainement, ce n'est pas rationnel. Et le français, on dit qu'il est cartésien. On aime bien comprendre les choses. C'est un petit peu normal. C'est aussi la nature humaine. Mais recevoir les instructions du Seigneur, c'est accepter de ne pas comprendre. Mais de dire, parce que c'est ta parole, alors oui, je veux, sur ta parole, comme disait l'apôtre Pierre. Alors dans ces conditions, oui, nous trouverons le vrai repos pour notre âme. Nous trouverons quelque chose qui nous amènera beaucoup plus loin dans la paix, dans notre marche avec le Seigneur. Le joug, c'est aussi quelque chose qui permet, je ne vais pas le développer ce matin, mais qui permet de marcher au même pas. Là encore, on est étroitement liés et on marche au même pas. A-t-on envie de marcher au même pas que le Seigneur, d'avancer à son rythme ? dans sa volonté, alors moi j'ai envie de porter ce joug. J'ai envie de dire oui Seigneur, j'accepte de mettre ce joug, parce que j'ai bien compris que ce n'est pas un joug de servitude, ce n'est pas de l'esclavage, tu m'as libéré de l'esclavage. Et ce joug que tu me proposes, et ces instructions que tu veux me donner, c'est quelque chose qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin avec toi. Le joug permet aussi d'économiser les forces. Pourquoi on met plusieurs animaux avec un joug? C'est pour économiser les forces. Hein. Et méditer sur ce passage, il y a beaucoup de points qu'on pourrait encore développer. Ce matin, voilà, j'ai souhaité développer ces quelques points-là. Pas possible de reculer, d'aller en arrière. Si vous êtes découragé, si vous vous dites peut-être, ou cette petite voix du malin essaye de venir ravir les promesses de Dieu et de vous dire, non mais attends, ta vie avec Christ, regarde bien, c'est de la tristesse ta marche. Fais pas croire que tu es heureux. Avant, oui, tu t'éclatais, avant c'était mieux. Avant, tu étais nourri gratuitement. Avant, ouais, c'était bien, mais là, non. Alors, prends le joug du Seigneur et accepte de ne pas reculer. Le Seigneur veut te faire avancer plus loin. Pas possible de s'écarter de la trajectoire. Peut-être tu t'es écarté dans des raisonnements, dans des choses, parce que j'avais aussi cette pensée de parfois la tentation de porter le joug de l'écrivain plutôt que le joug du Seigneur. Je parlais tout à l'heure de... Et y a, merci Seigneur pour des hommes de Dieu qui ont vraiment des révélations de la parole et qui par des ouvrages, par des livres, peuvent vraiment nous amener à une compréhension de la parole. Et je bénis Dieu pour cela. Mais malgré tout, ne nous mettons pas sous le joug de l'écrivain. Restons sous le joug du Seigneur. Parce qu'on est parfois tenté de regarder plus à l'écrivain et puis d'aller chercher le prochain ouvrage et puis de le prendre. Et puis et là encore, c'est pas mal en soi. Mais on s'écarte de la parole, de la nourriture de Dieu. Alors si certains se sont écartés, mettez le joug. Si certains ont tendance à avoir une vie chrétienne un peu en zigzag, alors le joug du Seigneur va vous permettre d'avoir la même trajectoire que lui. Et puis ça, oui, ça impose de cesser conduire, de dépendre de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile parce que c'est du renoncement. C'est du renoncement. Mais est-ce que le Seigneur permet de nous emmener dans des chemins qui ne sont pas les siens? Non. Alors oui, parfois le chemin est difficile. Mais quand c'est le Seigneur qui conduit et qui trace la route, alors moi j'ai envie d'y rester uni à lui. Et puis, chacun fait sa part, oui, chacun fait sa part. Le Seigneur a acquis notre salut à la croix. Le Seigneur nous donne la capacité d'avancer. Mais nous avons notre part à faire, la volonté. Souvent, on le dit quand on parle du fils prodigue qui, à un moment, est rentré en lui-même et qui a pris la résolution. Oui, je me lèverai, j'irai. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est de dire, je ne sais pas ce qui va se passer. Je fais confiance au Seigneur, mais je prends la décision. J'ai la volonté d'avancer. Je n'ai pas la force, mais lui va me donner la force. Que le Seigneur bénisse nos vies ce matin. Amen. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole. Elle est bonne, elle est agréable. Merci, Seigneur, parce que tu nous proposes de nous emmener toujours plus loin. Toujours plus loin sur ton chemin, Seigneur. Tu nous proposes ce repos de l'âme qui, si souvent encore, est agitée. Cette âme qui est parfois tourmentée même. Tu nous proposes, oui, le vrai repos. Et je te prie, Seigneur, ce matin pour chacune de nos vies, pour que nous puissions considérer notre marche avec toi. Que nous puissions considérer, Seigneur, l'importance, la nécessité absolue, impérative de revêtir ton joug, de recevoir tes instructions. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai voulu en faire qu'à ma tête, Seigneur. Pour toutes les fois où tes instructions, je les ai entendues, mais je ne les ai pas reçues. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, peut-être pour un frère, pour une sœur, pour un ami qui se sent complètement découragé, abattu, éloigné de toi. qui se sent dans l'incapacité de marcher avec toi, de rester fidèle. Je te prie, Seigneur, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, la volonté, Seigneur. Ça, c'est une chose que nous pouvons faire. Prendre la résolution, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de nous donner chaque jour de prendre cette résolution de marcher avec toi, d'être unis à toi, Seigneur, d'être soumis à toi, d'accepter de marcher à ton pas, à ton rythme. Merci parce que dans la marche, c'est toi qui renouvelles nos forces. Sois béni et glorifié, Seigneur.